Chers frères et sœurs, l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous avons tous une grande difficulté à fixer les bonnes priorités. Naturellement, notre regard se porte sur ce qui est visible et immédiat, le succès, le confort, l'opinion, les biens matériels. Et nous tendons à négliger ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Pire encore, nous essayons parfois d'imposer ces mêmes priorités à Dieu, comme si nos choix devaient être les choix de Dieu. Ce matin, ma prière est que l'Esprit de Dieu vienne à notre secours. Que notre regard se tourne vers ce qui est important, que nos cœurs soient redressés pour regarder là où Dieu regarde. Nous lisons 1 Pierre, au premier chapitre, les versets 17 à 21. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans tache, sans défaut. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce passage de la Bible, du Nouveau Testament, a un avantage absolu, indéniable, c'est qu'il arrive à réunir trois aspects de la foi qui aujourd'hui sont contestés par notre culture moderne. Ce texte parle de jugement, de peur et de sang. Et c'est vrai que chacun de ces points est perçu comme archaïque, comme lié à une façon antique de penser, comme si de nos jours, nous n'avions plus besoin de jugement, de peur ou même de sang. Et pourtant, je crois que ce passage est porteur d'une espérance sans pareille. Prenons la peur, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on préfère quand même 1 Jean 4,18 la peur bannit la crainte. On préférerait ce passage et on se dit, mais quel est le sens de cette peur ici? D'autant plus que la version que je vous ai lue parle de crainte respectueuse. Ça, c'est une traduction moderne. Mais en fait, en grec, c'est conduisez-vous avec peur. Voilà. Durant le temps de votre séjour, de votre exil. C'est le terme peur qui apparaît ici. Et c'est d'autant plus intriguant que Pierre s'adresse à des chrétiens dispersés et persécutés dans les provinces d'Asie mineure, donc de Turquie actuelle. Pierre s'adresse à des chrétiens persécutés et il les encourage à se conduire, à vivre dans la peur. Ça paraît un total non-sens. On s'imagine bien que là où les chrétiens sont persécutés, il n'y a pas besoin de leur apprendre à avoir peur. Et pourtant, je crois que nous avons tous besoin d'apprendre à avoir peur, mais de la bonne peur. Au cœur de son exhortation et de tout le passage, on dirait même la deuxième partie de ce chapitre entier, Pierre met en lumière un contraste. Et ce contraste, c'est entre le temporaire et le permanent, entre ce qui est corruptible et ce qui ne l'est pas. D'un côté, on a notre séjour sur terre, qui est temporaire, notre exil. Sur ce même côté, on a l'argent et l'or, on a ces traditions vides, sans sens. Toutes ces choses-là sont temporaires. Nos épreuves, notre persécution, nos difficultés, toutes ces choses sont temporaires. De l'autre, le contraste est mis avec ce qui est infiniment précieux. Le sang de Jésus, l'agneau parfait, sans défaut, qui a été prédestiné avant même la fondation du monde. Avant même de créer le monde, Dieu avait déjà choisi d'envoyer Jésus. Avant même que nous existions, Jésus voulait se donner pour nous. Et on a d'autres aspects qui ressortent, la sainteté de Dieu, la parole de Dieu, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont permanents. Et donc on comprend vite, à cause du contexte de la persécution, ou plutôt l'avantage de la persécution, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'elle effectue pour nous un tri entre ce qui est permanent et temporaire. On ne sait pas trop quelle était l'intensité de la persécution à ceux à qui Pierre écrit. Il parle quand même d'afflictions, de diverses épreuves au premier chapitre. Et au quatrième chapitre, il parle de cette fournaise qui sévit. Donc on ne sait pas trop, mais celui qui est aux prises avec la persécution, donc celui qui peut perdre son travail, celui qui peut perdre ses biens, ses possessions, sa terre, celui qui peut perdre ses relations à cause de sa foi, celui-là comprend vite qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est permanent. Et donc c'est bien pour ça que Paul lance cet appel puissant au verset 17. Si vous invoquez comme père celui qui juge sans partialité selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec une peur pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors, moi je traduis par peur, d'autres traduiront par crainte respectueuse. Il ne s'agit pas d'une peur servile, d'une peur esclave, une peur qui redoute le châtiment. Mais il s'agit d'une crainte filiale, une crainte naturelle qui vient avec l'amour. Et c'est saint Augustin, dans divers écrits, qui fait cette distinction entre deux formes de peur à la nature différente. Et Augustin parle de la peur servile, c'est-à-dire la peur de l'esclave qui redoute le châtiment, qui redoute la punition. Et à cette peur, il oppose la peur chaste, comme il l'appelle, ou pure ou filiale, cette peur qui vient de l'amour. Alors ça peut paraître un peu subjectif, un peu imagé, mais justement, Augustin emploie une image pour nous l'expliquer. Alors, vous me pardonnez l'image, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Et donc il écrit, on ne peut mieux expliquer la distance qui sépare ces deux craintes qu'en les comparant à deux femmes mariées. Suppose que l'une d'elles soit désireuse de commettre l'adultère, qu'elle se complaise dans le mal, mais craigne la réprobation de son mari. Elle craint son mari, mais c'est parce qu'elle aime encore plus le mal qu'elle le craint. La présence de son mari ne lui est pas douce, mais à charge. Tels sont ceux qui craignent que ne vienne le jour du jugement. Imagine une autre femme qui aime son mari, qui ne se laisse pas effleurer par la moindre souillure d'adultère, elle souhaite la présence de son mari. Et comment distinguer ces deux craintes ? L'une craint et l'autre craint. Interrogez-les, elles te répondent comme d'une même voix. La réponse est la même, mais le cœur est différent. Si maintenant tu leur demandes pourquoi, l'une répond « Je crains que mon mari ne vienne » et l'autre « Je crains que mon mari s'en aille ». Alors, je pense qu'on aurait pu prendre aussi les maris hein, dans ce texte. Hein. On n'est pas obligé de seulement de parler des femmes. Hein. Mais c'est là qu'on voit cet appel de l'amour, cet amour qui appelle à la fidélité. Un amour authentique nous appelle à la fidélité et cet appel produit une crainte. Et Dieu, notre Père, nous a rachetés à un prix infiniment élevé. Et lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on discerne la valeur de ce que Jésus a donné, nous désirons tous nous conduire de façon à l'honorer. Paul l'écrit aux Corinthiens, c'est que l'amour de Christ nous presse. L'amour nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. L'amour se donne entièrement et l'amour appelle celui qui le reçoit à répondre en se donnant également entièrement. La crainte de Dieu est le fruit de notre amour pour lui. Cette crainte est particulièrement nécessaire pour nous durant le temps de notre séjour sur terre. Nous ne sommes pas chez nous ici, nous sommes des pèlerins. Et la persécution, comme les épreuves d'aujourd'hui, agit comme un révélateur puissant. Elle nous montre la vanité de ce que le monde considère comme important et ça nous oblige à nous attacher à ce qui demeure éternellement. Notre nature humaine, blessée par le péché, a une tendance à inverser les priorités. Nous courons après ce qui est passager et nous négligeons ce qui est éternel. La tradition chrétienne a appelé cette tendance la concupiscence. Je le répète, la concupiscence. Le fait que notre désir est dévoyé, que naturellement nous tournons nos envies vers ce qui n'est pas très intéressant. Mais la crainte de Dieu, la crainte filiale, vient corriger cette inclination. Elle nous garde vigilants, elle nous fait choisir chaque jour le sang précieux du Christ plutôt que les idoles corruptibles de notre époque. Et donc on a plusieurs situations dans lesquelles cette peur, cet amour doit nous transformer. Tout d'abord, face aux distractions. Nous sommes toutes et tous dans un monde rempli de distractions. Il est facile d'être distrait. Et je le remarque moi-même, autant que je passe sur mon téléphone à regarder des choses qui sont en définitive pas très intéressantes. Nous sommes distraits. Et souvent, le sujet de nos distractions n'est pas très important. Dans nos choix matériels et financiers, et le texte le dit, l'argent et l'or, c'est corruptible. Bon alors, là, il faut voir parce qu'on sort des épaves de bateaux du milieu de la mer et puis l'or n'a pas bougé dedans. Mais ce que veut dire Pierre en parlant de la corruptibilité de l'or et de l'argent, c'est qu'un jour, alors aujourd'hui c'est quand même utile, mais un jour vient où ce sera inutile. dans nos relations même. Je suis frappé de considérer qu'on place des fois toute notre espérance dans nos bonnes relations. Et on le formule sous un vernis religieux en disant « Qu'est-ce que je suis reconnaissant à Dieu de toutes mes bonnes relations ?» Mais les relations, malheureusement, mis à part celles avec Dieu, elles sont temporaires. Non, nos sujets de reconnaissance, les sujets dans lesquels nous plaçons notre espérance, même ceux-là, parfois, sont temporaires. Alors, je faisais la blague dimanche passé, en faisant le malin, là, où j'ai remarqué que, voilà, depuis quelques temps, j'ai de plus en plus de peine à lire ma Bible lorsque je suis trop éloigné de mon livre. Voilà, si je place mon espérance dans ma bonne santé, il y a forcément un jour où je vais être déçu. Si mon unique sujet de reconnaissance, c'est mon intelligence, ben malheureusement, il y arrivera un jour où ça va un peu diminuer. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Il commence le passage, Pierre, en parlant de ce jugement. Il dit, « Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. » J'ai été intrigué par ce verset 17. Savez-vous qu'aujourd'hui, en Suisse, ce verset poserait un problème de droit? Un juge ne peut pas juger son enfant. Notre droit prévoit que s'il y a même apparence de partialité, il s'agit d'un motif de prévention, comme il l'appelle. Un juge doit se récuser lorsqu'il entretient des liens familiaux ou amicaux trop directs avec la personne qu'il juge. Se récuser, c'est-à-dire renoncer, dire « ce n'est pas moi qui jugerai cette personne ». Mais notre texte nous dit une chose sur Dieu. Dieu est impartial. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu reste juste. Et donc Dieu ne se récusera pas. Dieu, celui que nous considérons comme notre Père, mais qui jugera aussi les vivants et les morts, par Jésus-Christ, ce Dieu-là ne se récusera pas et nous aurons tous à rendre des comptes. Mais c'est là que la valeur de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le sacrifice de Jésus transforme notre perspective. Parce que celui qui juge Jésus est aussi celui qui a déjà reçu le châtiment. Le juge est celui qui a porté la sentence. Et donc nous, en tant que croyants, nous abordons ce jugement dans une perspective radicalement différente, parce que nous savons que Christ a déjà porté en lui notre condamnation. Et donc, face à ce jugement, nous ne sommes pas appelés à cette crainte servile, à cette peur du châtiment, à cette peur de la sentence. Augustin parle de cette peur servile, cette peur d'esclave, comme une peur qui n'est pas digne d'un homme libre. Un homme libre n'a pas à craindre dans cette servilité. Par Christ, nous pouvons tourner les regards vers ce Dieu qui est notre Père et qui jugera les vivants et les morts avec cette confiance et cet amour. Non pas sans peur, mais sans cette peur servile. Avec cette peur, pour bien définir cette peur, je dirais que lorsque l'on conçoit le prix, la valeur de l'œuvre de Jésus, la valeur de ce que Jésus a donné pour nous, alors forcément, nous voulions répondre à cet amour par un amour équivalent. Nous voulons aimer Dieu comme il nous a aimés. Nous voulons le servir comme il nous a servis. En conclusion, la peur, la crainte respectueuse dont parle Pierre n'est pas une peur qui étouffe, mais une vigilance joyeuse. Elle fait de nous des pèlerins libres et nous pouvons tout perdre tout en sachant que jamais nous ne perdrons cette rédemption et cette relation avec notre Dieu. Plein de choses passent, plein de choses, la majorité sont temporaires dans nos vies. Mais Dieu n'est pas temporaire. Dieu est permanent. Que Dieu nous accorde de vivre chaque jour avec cette sainte peur filiale, afin que notre foi et notre espérance reposent véritablement sur lui. Amen.